théâtre, on frappe trois coups. C'est comme ça que ça commence. Trois coups, un pour le roi, un pour la reine et un pour le dauphin, nous dit-on. Mais si ça se trouve, c'est peut-être une prière contre une quelconque malédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou alors un avertissement pour bien vérifier que tout le monde est prêt. La prétendante côté jardin, le machiniste côté cour et le public. Trois coups, ça veut dire que ça commence, que le rideau va se lever. Trois coups avec un petit bâton qu'on appelle brigadier. Pour moi, c'est le bruit de la rentrée. On peut y voir des coups bas, le retour des coups de blouse, des coups durs, des coups de fil dont on sait déjà qu'ils vont pas s'arrêter, ou des coups de fouet dont on se dit qu'on aurait pu s'en passer, des coups de grâce alors qu'on était tranquillement en train de se prélasser. C'est la rentrée. Au théâtre, on frappe trois coups, c'est la tradition, même si elle est souvent précédée d'une dizaine de petits coups pour réclamer notre attention. Il y aura des coups d'éclat, des coups de cœur, des coups de foudre, des coups d'essai, mais des coups de maître aussi, et même des coups de grâce, si ça se trouve. Des coups de fatigue, des coups de folie, des coups fourrés, vous nous connaissez, on fera en sorte que ça vaille le coup, mais ça sera pas le cas à tous les coups. Et tant mieux si vous nous faites des coups de gueule et des coups de son, ça voudra dire qu'on est vivant. Au théâtre, comme à la rentrée, on frappe trois coups. Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour vous ?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, c'est trois coups. Mon invité d'aujourd'hui les a entendus plus d'une fois. Comédienne au théâtre et au cinéma depuis que je suis née. Ses rôles de Zézette, Gigi, Dame Ginette ont fait d'elle l'une de nos figures les plus populaires. C'est sur les planches du théâtre des variétés qu'on la retrouvera dès le 17 septembre pour La famille et le potager. Une comédie familiale, déjantée, grinçante, volontiers macabre. Bonjour Marianne Chazelle.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors ces trois coups de rentrée, ces trois coups d'ouverture, juste avant le lever de rideau, qu'est-ce qu'il sonne pour vous ?
Alors aujourd'hui, il sonne évidemment le démarrage de la pièce, parce que je suis dans un théâtre depuis trois semaines, je répète avec des gens super, et on espère trouver le fameux coup de cœur dont vous parliez avant.
Et le public aussi quand même.
Le public, bien sûr, parce que sans le public, on n'existe pas. Sur les planches, c'est vrai que c'est un art qui a besoin d'avoir un partenaire. Ce n'est pas comme un peintre, peut-être, ou comme un écrivain.
Dans quel état vous êtes, justement, pendant
ces
trois coups ?
Alors là, franchement, votre émission est un peu tôt. Vous voyez, je vous le dis en face. Mais on est dans la bonne période, bien stressante, bien tendante, parce que la pièce qu'on va jouer, c'est une création. Donc on peut pas se référer à une façon de la jouer ou de la monter qui aurait été faite avant.
Mais c'est pas la première fois que vous êtes au théâtre. Alors quand ces trois coups sonnent, justement, vous avez un frisson.
Alors, je vais vous décevoir atrocement, Augustin, mais il n'y a
aucun stress.
Il n'y a plus aucun du théâtre où il y a les trois coups.
Ah, c'est vrai.
Très, très, très peu. Et moi, ça m'est arrivé pas si souvent que ça. Certains metteurs en scène y tiennent. Peut-être qu'à la Comédie Française, ils le font encore, ça c'est possible.
Il y a une fébrilité quand même de votre part, juste avant que ça commence.
Ah,
juste avant que...
Évidemment, là ça bruisse, on écoute, on regarde à travers le rideau, on se dit tiens, il y a un tel, non, on regarde pas. On se dit, j'ai plus souvenir d'un mot de mon texte, vite pipi. Donc c'est évidemment, on est très très stressé au début.
Et quel lieu est-ce que c'est, une salle de théâtre, pour vous ?
Pour moi, une salle de théâtre, c'est là où je deviens quelqu'un d'autre. C'est là où je me transforme en personnage que je vais jouer pendant deux heures face à des gens qui ont eu l'extrême gentillesse de venir.
Alors c'est une façon de s'échapper en fait.
Ah totalement, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être quelqu'un d'autre, c'est une façon d'exister, de s'oublier dans sa petite médiocrité, sa petite banalité, et de peut-être d'être un peu plus intéressant, peut-être un peu plus drôle, peut-être un peu plus beau, plus laid, selon les rôles.
Et à quel moment est-ce que vous l'avez découvert, ce lieu, dans votre vie ? Vous vous souvenez ?
Alors, le plaisir de jouer, je l'ai découvert très jeune, parce que très petite, j'adorais me déguiser et on montait des spectacles avec mes cousines, on faisait des trucs passionnants, tels on ne prend pas des mouches avec du vinaigre, de la comtesse de Ségur, enfin des trucs haletants. Et puis, dès que, je ne sais pas, j'ai été toujours attirée par ça. Et puis, je l'ai découvert évidemment avec mes copains du Splendide.
Et vous dites que c'est une maison, le théâtre, pour vous, parfois.
Oui, 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 parce que quand j'arrive là-bas, c'est que je laisse mon barda, je laisse mon paquet de ma vie, et je rentre dans une autre maison dans laquelle je suis dans une dimension, non pas de rêve, je dirais, mais c'est autre chose, c'est une vie entre parenthèses. On retrouve les mêmes gens, on se parle, comment ça va, on se raconte la journée, on prend son thé. Il y a tout un rituel, il y a toute une tradition qui s'instaure. Parfois merveilleuse, parfois un petit peu moins bien selon comment se passe la pièce, si avec les camarades on s'entend plus ou moins. Il peut y avoir des petites tensions parfois.
Mais c'est intéressant que vous parliez de maison, Marianne Chazelle, parce qu'on pense tout de suite à votre mère, Luba Gertchikov, qui, il faut rappeler, a contribué à la naissance du Théâtre du Soleil. Quelle comédienne est-ce qu'elle était, elle ?
Ah, maman était une comédienne d'abord sur le tard, parce qu'elle n'avait pas pu, avant ses 40 ans bien sonnés, se mettre à la comédie. Mais c'était un désir refoulé qu'elle a pu réaliser, donc rien que ça, rien que... Vous savez, quand on dit réaliser ses rêves, c'est jamais trop tard. Et c'était une actrice alors passionnée, entière, emportée. Puis vous savez, au Théâtre du Soleil, on faisait tout. On faisait le ménage, la cuisine, on faisait le décor, on aidait à l'écriture et puis accessoirement, on jouait.
Ça vous a jamais tenté, vous, le Théâtre du Soleil, cette aventure-là ?
Quand elle me l'a proposé, moi j'ai dit non, mais en fait c'est parce que j'étais partie dans mon aventure avec mes copains du Splendide.
Vous étiez en plein Splendide, ouais.
Voilà, et puis en fait on faisait pas la même chose, et en même temps on faisait la même chose, à savoir qu'on a commencé par le café-théâtre, où on construisait nos cafés-théâtres, on écrivait nos pièces, on faisait
le ménage.
Là
aussi on faisait tout.
On faisait tout, sauf que c'était un tout petit groupe, et qu'il y avait une grande... chacun avait sa voix, alors que... Au Soleil, c'était quand même beaucoup le théâtre de Daria Nouchkine, qui était, elle, la créatrice et la chef.
Mais quand vous pensez à votre mère sur scène, justement, parce que vous l'avez vue, quelles images reviennent immédiatement?
Alors, j'aimais pas trop petite, j'aimais pas trop la voir jouer quand elle jouait dans les petites paroisses, enfin, dans les paroisses où elle crée ses petits clubs d'art dramatique.
Parce que c'était quelqu'un d'autre.
Ah oui, et puis je l'avais même pas reconnue. La première pièce où j'avais été la voir, j'avais 5 ans et demi, et elle m'avait dit, voilà, on fait un spectacle. C'est un spectacle assez pieux, hein, puisque tout ça, on est dans un contexte de paroisse. Et puis je vois cette pièce et puis je la vois pas. Je dis, mais je comprends pas, oui maman, je la vois pas. Et puis je sors de la pièce très très déçue, disant, mais je t'ai pas vue. Elle me dit, mais si, c'est moi qui jouais la petite fille là. Et j'avais vu une petite fille. Et c'était pas ma mère. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc magique qui se passait. Et qu'on pouvait gommer quelque chose qu'on était pour devenir quelqu'un d'autre. Et je pense que ça m'est venu de là.
Elle vous a aidé à devenir comédienne?
Non, elle m'a vraiment fichu la paix. Pour ça, elle a été très respectueuse. Et puis, j'avais trouvé un relais qui était quand même extrêmement prenant et qui prenait beaucoup de place, qui était Tilla Shelton, hein, qui était notre professeur d'art dramatique. Et donc, c'était... En plus, c'était un âge où on n'a pas tellement envie de demander à ses parents ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Ça nous intéresse pas du tout. Donc, c'est pas elle qui m'a à ce niveau-là. Mais elle était très soutenante. Elle nous apportait des gâteaux quand on travaillait, quand on faisait des spectacles. Elle nous aidait pour les costumes, elle cousait, elle était super.
En tout cas, c'est intéressant, ce qu'on comprend bien chez vous, que théâtre et famille sont dans une certaine mesure indissociables. Marianne Chazelle, et c'est bien de famille qu'il est question dans La famille et le potager, votre nouvelle pièce, qui interroge les limites de l'amour parental. Vous est-il arrivé d'avoir le sentiment que l'amour que vous portez vos parents avait des limites, vous?
Oui. Je pense que, alors peut-être pas l'amour, mais la satisfaction qu'on leur apporte. Et c'est vrai que je dois donner satisfaction, qui était une bonne base de mon éducation. Par moments, j'ai senti que j'avais pas forcément rempli la case quand j'ai arrêté les études à la Nanterre, où je faisais une licence d'histoire géo, pour définitivement devenir comédienne.
Quelle adolescente est-ce que vous étiez?
Moi, j'ai le souvenir d'avoir été quelqu'un de très timide, de très peu sûr de moi, et en même temps, très très curieuse et d'avoir envie de faire plein de choses.
Mais c'était... il paraît provoque aussi un peu.
Ben c'est comme ça que me voyaient les copains. C'est bizarre parce que moi j'ai pas le souvenir de ça. Et en fait je l'ai découvert grâce à eux et j'ai découvert qu'on pouvait en fait s'amuser dans la vie. Que tout n'était pas très sérieux, très grave, très important comme dans ma famille protestante. Mais que les choses pouvaient être déconnantes, légères, irrespectueuses sans que ça fasse de mal à personne. Et en prenant beaucoup de plaisir.
Vous savez qu'il y en a une qui est provoque et irrespectueuse dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Marianne, c'est évidemment La Culture, qui manque par ailleurs cruellement d'ouverture. Son actualité très intolérante, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 2 septembre?
J'ai vu le cancer, elle est perdue.
Si c'est ça, je me tuerai.
Encore un truc pour qu'on me dise qu'on t'aime.
Tadam! Depuis hier, grâce à la complicité de MK2, la plateforme Netflix propose de découvrir ou de redécouvrir 6 films de l'icône Agnès Varda. Au programme 4 classiques, Antoine Ilois, Cléo de 5 à 7, L'une chante, l'autre pas et Les plages d'Agnès. Mais aussi La Pointe courte, son premier long métrage de fiction daté de 1955 et Le Bonheur, sorti en 65. Après Godard, Chabrol, Demy, Sautet, Tavernier, Netflix, avec cette nouvelle proposition, entérine son exploration historique du cinéma d'auteur français, Cocorico.
Je crois qu'on invente un certain nombre de ses souvenirs, mais tout au long de sa vie, vous ne croyez pas qu'on invente beaucoup de ses souvenirs.
Mort d'un ténor, avocat, écrivain, académicien, Jean-Denis Brodin s'est éteint hier, il avait 92 ans, figure du barreau français, il s'était impliqué notamment dans la défense de militants du FLN, ou dans le procès en révision de l'affaire Seznec, homme de lettres, élu à l'Académie française en 89. Jean-Denis Brodin restera aussi l'auteur d'une œuvre dense, marquée par l'exploration de l'histoire de France. On lui doit notamment L'Affaire, vaste enquête de référence sur l'affaire Dreyfus, quelques romans et plusieurs essais biographiques sur Charlotte Corday, ou la famille Necker notamment. La Vague, à défaut de déployer sa traditionnelle édition de rentrée dans le domaine de Saint-Cloud, le festival Rock en Seine s'adapte et propose à la place 2 soirées gratuites en plein Paris, Marianne. Baptisée Sur la Vague, organisée aujourd'hui et demain soir sur la scène du Flow au niveau des quais de Seine, l'événement met à l'honneur les talents musicaux de demain en invitant 6 jeunes groupes et artistes au programme M. Simone, Benjamin Epps, November Ultra, Lulu Van Trapp, Oracle Sisters et Regina Demina. Allez là,
James,
Le destin nous réunit à nouveau.
Le passé ne meurt jamais.
Et enfin, mourir peut attendre, mais plus pour longtemps. Les studios MGM et Universal viennent de révéler la bande-annonce finale du prochain James Bond. Après d'interminables mois d'attente et de multiples reports de sortie, le film qui marquera la dernière apparition de Daniel Craig en 007 est attendu sur grand écran le 6 octobre prochain. Réunissant aussi Léa Seydoux et Rami Malek, le long-métrage verra le célèbre agent secret passer le flambeau et son célèbre matricule 007 à une nouvelle recrue du MI6 incarnée par l'actrice Lashana Lynch. Beaucoup mieux que James Bond, Marianne Chazelle, invitée de Boomerang ce matin. Pour parler de théâtre et de ce rôle, hein, dans La famille et le potager, où vous campez un personnage de bourgeoise, à la fois loufoque et dépressive, complètement déconnectée de la réalité. Cette femme et son mari, cette famille en fait, qu'est-ce qu'ils incarnent dans la France d'aujourd'hui pour vous ?
Ah, ils incarnent des vrais gens, je trouve. On en connaît, enfin moi j'en connais des comme ça. Bon là, disons que c'est un peu poussé, hein. Bob Martel, l'auteur, est allé quand même très 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 loin dans la déjanterie et dans la névrose. En fait, c'est un couple de gens qui s'aiment, c'est ça qui est formidable, elle le dit. On s'aime mal, n'importe comment, mais vraiment. Ils sont complètement siphonnés. Lui, c'est un pauvre artiste maudit parce qu'il a jamais exposé, mais Dieu merci, l'appartement est assez grand pour pouvoir accrocher les toiles. Et elle, c'est une riche, riche héritière que cet argent a complètement empêché de réaliser quoi que ce soit et qui n'a rien fait de sa vie.
Et la famille Chazelle, elle ressemblait à quoi ? Quel genre de famille est-ce que c'était ? Vous, dont le père était pasteur, il paraît.
Oui, exactement. Bah, c'était une famille de pasteurs.
Voilà. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que c'était une famille. Bah, c'est, comme je dis dans ma vie, c'est un petit peu compliqué d'être enfant de pasteur. C'était une famille à la fois dans laquelle il y avait une tradition religieuse très forte, mais en même temps, comme chez les protestants, on veut vous donner l'impression que vous avez le choix.
Ça ne vous a pas inspiré de vocation ?
À vocation, non. Ça m'a inspiré certainement une sensibilité, certainement. Un certain sens moral, je ne le nie pas. Un goût pour Bach, ça c'est sûr.
Et c'est un métier quand même, pasteur, où on est en représentation, un métier qui se réalise pleinement en présence d'un public, de fidèles.
Absolument.
Il y a quelque chose de cet ordre que vous avez prolongé peut-être ?
Oui, c'est vrai que ça m'impressionnait beaucoup quand je le voyais en chair. Et la grosse différence, c'est que lui, il comprenait pas que moi je joue des gens que je n'étais pas et que je dise des choses. Et c'est pas que je les croyais pas, parce que je les crois quand je dis sur moi.
Parce que vous mentiez pour lui.
Oui, alors qu'il y a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le mensonge, la comédie. C'est autre chose. On n'est pas dans une valeur morale. On essaie de rendre vivants des personnages qu'on invente, qu'un auteur a inventé pour nous, et pour qu'on les comprenne mieux, qu'on les voit mieux.
Qu'est-ce qu'il souhaitait pour vous, votre père ? L'histoire géo ?
Agrégé d'histoire géo, certainement. Oui, enfin, continuer des études plus intellectuelles que ce que je ne faisais, surtout quand j'ai commencé avec du café-théâtre, à faire des sketchs.
Oui.
Non, Georges, pas ici. Enfin, des histoires de jeunes qui n'étaient pas du tout dans son univers.
C'est intéressant parce qu'on en revient toujours à la famille. Avec vous, Marianne Chazelle, au théâtre, avec les membres du Splendide, quelle famille est-ce que vous avez trouvé ? Quelle famille est-ce que vous avez créée ?
Alors là, c'était ma famille choisie. C'est vraiment ceux avec lesquels j'ai pu épanouir ce que j'étais profondément. Et j'y ai découvert.
C'est beau,
profondément. Un petit lapsus de glissé. Et je suis devenue, grâce à eux, ils m'ont apporté, ce que je vous disais tout à l'heure, la conscience que la vie pouvait être autrement et plus légère et plus joyeuse et puis qu'on pouvait faire des choses, simplement.
Et puis,
qui ne vous était pas imposé, mais qui était ce qui vous correspondait.
Et qu'on pouvait dire des choses aussi, Marianne.
Et qu'on pouvait dire des choses.
Parce que de là, quand même, ont germé certaines des répliques les plus cultes du théâtre et du cinéma français. Bah, vous nous connaissez, on n'a pas pu résister.
Vous avez le soleil dans les bagages ? Non, vous voyez, je les préfère avec 50 plus. Ensuite, très distingué, Jean-Paul Newman.
Allez, il faudrait chier de me répondre, c'est une espèce de pétasse.
Non mais ça va pas bien derrière.
Si, je t'ai déjà dit que je voulais plus te voir. Tu vas pas continuer de nous emmerder, hein.
Calme-toi, Cathy, je viens juste récupérer mon matelas.
Il est à la cave, ton matelas. Tu sais où c'est ? C'est pas fermé. Alors tu le prends, tu te casses avec et tu viens plus nous faire chier.
Attends, Cathy. Mademoiselle, s'il vous plaît.
Oui, madame.
Qu'est-ce que c'est que la crème chichi ?
Eh bien, la crème chichi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de roustienne. C'est délicieux.
Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur, mais nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Eh ben voilà, eh ben ça, c'est tout la sucruche, ça. Et vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Zizette épouse X.
Zizette épouse X. Eh, monsieur Pierre ! Car monsieur Trémel-Polic a téléphoné, il voulait enculer Thérèse.
Oui, mais c'est un ami.
Ah ben ça va, alors.
Eh, dis donc, c'est Mardi Gras ?
Vous êtes déguisé comme au carnaval.
Silence, la vilaine. Viens. Range-la et va ton chemin.
Oh putain, mazette. Ah, hé, vous êtes des vedettes de la télé.
Bah dis donc, t'es un sacré dégueulasse, toi. Tu bouffes la cellophane avec.
Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne.
T'as pas vu ton pif, hein? Je suis réfugié politique, enculé.
Le problème, c'est qu'on vous les sort tout le temps, ces phrases, dans la rue.
Oui, 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 c'est rentré dans la culture
dans l'inconscient collectif.
Absolument. Ouais.
On vous dit quoi? Une crêpe au sucre?
Oui, alors là, je peux plus du tout manger de crêpes, hein, c'est
vous
foutu.
Vous pouvez aller dans les crêperies, Marianne. Hein. Je peux aller en Bretagne?
Non, absolument impossible, alors que j'adore les crêpes. Et oui, oui, c'est vrai que c'est étonnant de voir comme les gens communiquent entre eux. Avec ce genre de réplique et comment ils font part de leurs états intérieurs, par exemple.
Tu es dans les drômes et tu es bien bonne.
Voilà, je sais pas si ça fait toujours plaisir,
non,
ça.
Mais bon. Pourquoi ils ont tant marqué ces films, à votre avis? Vous avez fini par le savoir, par le comprendre?
Non, on comprend jamais vraiment, je crois, les choses qui fonctionnent, ça me semble. On fait des analyses. Il y a des... Je pense que c'était la liberté de ton par rapport à l'époque où ça a été écrit, parce que c'était quand même assez provocateur, puisque... Par exemple, Le Père Noël est une ordure, on n'a pas eu le droit de mettre l'affiche, parce que le titre était considéré comme une atteinte à un mythe enfantin. Donc, vous voyez, on en est loin par rapport à maintenant. Et puis, je crois que c'est le rire, quoi. Je crois que c'est un truc qui est inexplicable. C'est, les gens s'y sont retrouvés, ça les fait rire.
Ça les rassemble, effectivement.
C'est très fédérateur et sur les générations. C'est ça qui est vraiment très chouette. C'est qu'en fait, on a parlé autant à des enfants qu'à des parents, qu'à des grands-parents, et maintenant, ben, on a toute cette population qui se souvient de ça.
C'est l'une des fonctions du cinéma pour vous, rassembler, justement,
Marianne
Chazelle.
Alors, de mon métier, pour moi, c'est vraiment une façon de... Je vois mon métier beaucoup comme ça. Moi, je suis pas pour les différents... Mettre en valeur forcément les différences. Au contraire, je crains le conflit. Je suis pas quelqu'un qui suis à l'aise du tout dans le conflit. Et au contraire, je trouve que tout ce qui est l'art, tout ce qui est le spectacle, ça doit aider les gens à partager, même s'ils pensent différemment, même s'ils sont d'origine différente, à partager quelque chose.
Mais quand vous voyez,
et c'est un grand plaisir quand on partage quelque chose. Regardez, quand on est amoureux de quelqu'un, quand on aime quelqu'un et qu'on partage un film, un paysage, comme c'est satisfaisant, comme on est heureux. Et ben c'est possible à la dimension du monde.
Mais quand vous voyez que les salles de cinéma peinent à se remplir, justement, vous vous dites quoi?
Ça m'inquiète un peu, parce que je trouve que le plaisir qu'il y a à voir un film dans des merveilleuses conditions, avec ce grand écran, cette musique de qualité, partager ça avec d'autres gens à côté qu'on ne connaît pas, qu'on ne verra jamais, à qui on va pas adresser la parole. Bon, sauf s'ils bouffent des pop-corns, hein. Parce que alors ceux-là, je les virerais.
Ah, c'est vrai?
Ah oui. Ça m'énerve quand j'entends les gens mâchouiller, là, vous voyez, à côté de moi. Mais je trouve que c'est un plaisir qui n'a rien à voir avec regarder dans sa télé. Bon, c'est super, on est dans son canapé, d'accord, on peut boire son café. Mais ça n'a rien à voir. Je trouve qu'il y a une différence de plaisir énorme.
Je préfère le bruit de pop-corn au bruit du café qu'on sirote, moi, personnellement.
Ah oui,
ouais.
Ah oui, la gorgée,
ouais.
Vous...
Ah, ça te...
Mais les bruits de bouche, de toute façon, c'est très énervant.
C'est violent. Vos premières émotions émerveillées de spectatrice, de quoi sont-elles faites? De quelles scènes? De quelles situations? De quelles images?
Très petite, ça a été, mais bon, vous êtes beaucoup trop jeune pour vous le connaître. C'est un film qui s'appelait Le Ballon Rouge, qui était un truc incroyable, et où on voyait, c'est l'histoire d'un ballon qu'un petit garçon lâchait et qui volait et qui allait traverser des paysages. Ah. Et je trouvais ça totalement magnifique. Et il finit, et j'ai une image où on voit le ballon posé sur un morceau de sable au bord de la mer. Voilà, ça m'avait semblé absolument dingo.
C'était du rêve, en fait.
Vous voyez,
fait,
comme là. C'était pas palpitant.
Et puis après, il y a eu Le Guépard aussi. Il y a eu Le Temps n'emporte le vent. Vous les avez pas oubliés, ceux-là.
Ça, Le n'emporte le vent, Le Guépard, ça m'a absolument d'abord filmé en costume. Ça, j'adore. Mais des costumes, là, vous voyez, aussi, on devient quelqu'un d'autre. On vit une autre époque. On découvre d'autres sensibilités.
Vous vouliez être Scarlett O'Hara?
Alors, j'adorais Scarlett. J'adorais son côté mal élevé, teignasse, capricieuse et en même temps cette volonté. Je me rêvais comme ça. J'étais pas du tout comme ça, mais je me rêvais comme
et
ça.
Et vous êtes devenue Zézette. Avec
voyez,
les gens en accordéon. Et Dame Ginette avec des sacs. La vie est étrange.
Et
quand
oui,
même.
Oui, mais on a... là, j'ai pas choisi vraiment.
Vous avez toujours fait rire, Marianne Chazelle?
Alors, je pense que j'ai eu une époque où j'ai plus fait rire du tout, mais j'ai un peu fait rire petite, oui, oui, oui. C'est vrai qu'on m'appelait la Strada quand j'étais petite chez moi, j'étais un petit clown, et puis après, je me suis remise à faire rire, et oui, je pense que j'ai beaucoup fait rire, enfin, j'espère, je le souhaite.
Et quand est-ce que vous avez compris que faire rire, c'était pas donné à tout le monde, justement, que c'était un don dont vous pourriez tirer parti, un don à cultiver?
Ben, c'est-à-dire que c'était, au départ, j'ai pas compris que c'était un don, j'ai compris que c'était du travail. Et d'arriver à comprendre l'écriture de la comédie, la musique, hein. Enfin, parce que la comédie, c'est de la musique. Savoir à quel moment, le temps qu'il faut pour que la réplique, pour que la situation soit perçue, pour que le décalage, vous voyez, la rupture fonctionne.
Ouais.
Ça s'apprend sur le plateau, ça s'apprend derrière la caméra.
On dit que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un comédien de faire rire.
Forcément, je vais vous dire que oui.
Si vous avez pris la voix de Scarlett O'Hara.
Mais voilà.
Vous voyez comme vous êtes. Provoquer le rire, ça tient à un rythme, ça tient à un souffle, ça tient à une écriture aussi. Pour vous, c'est quoi?
Oui, et ça tient à une prise de risque. Parce que il faut, quand, pour faire rire quelqu'un, il faut se mettre en danger, il faut être ridicule. Il faut accepter d'être ridicule, ou d'être bête, ou d'être laid, ou d'être à côté.
Et à partir du moment où on l'accepte, on ne l'est plus.
C'est-à-dire qu'on se pose même pas la question. Parce qu'on est, et quand on entend le rire, ou quand on voit que la personne a perçu ça, on a une vraie satisfaction.
Oui, mais au cinéma, on n'entend pas tout de suite la satisfaction. Ah, par exemple, quand vous faites Dame Ginette avec vos sacs poubelles.
Non, mais ça c'est vrai. Et alors, on fait rire, enfin, on rigole sur le plateau, hein, parce qu'il y a quand même des
quand
prises
même, ouais.
Où on peut pas, on rit beaucoup, surtout Jean-Marie Poiret, qui est un metteur en scène extrêmement rieur et très soutenant. Quand on entendait son gros rire énorme qui éclatait, on savait que la prise était bonne.
Oui, et puis quand vous arriviez sur le plateau, je suppose que les gens étaient morts de rire quand
forcément,
même.
Forcément, le look était quand même un petit peu.
Ah, bah, le look était
chargé.
Intéressant, il y avait du rose, hein, voilà. Il y avait du rose fluo.
Et vous faites rire.
Il y a du plastique.
Il y a du plastique.
Alors, je me fais rire. Quand je cherche, là, en ce moment, avec donc, mes camarades pour la pièce, là, pour la famille et le potager, c'est une création. Donc, on n'a pas de référence de ce qui a été joué avant, du ton à trouver, du rythme, là où ça va faire rire. Et on se fait rire. C'est vrai qu'en répétant, on se fait rire. Et donc, on est le premier client, si vous voulez. On est le premier regard. Et on espère que le public qui va venir voir la pièce va rire à ça aussi.
Vous savez qu'on va continuer ensemble, hein, de parler de rire d'émotion aussi, juste après une voix qui, je sais, vous fait frissonner, pour ne pas dire chavirer. C'est celle de Leonard Cohen.
Ah,
I'm Your Man.
Yeah.
En 1988, sur l'album du même nom. Vous êtes sur France Inter avec Marianne Chazelle. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
En fait, ce qui frappe, c'est son sourire, hein, son sourire débonnaire, volontiers taquin, son regard dans lequel frémit une lueur de mélancolie un peu slave. Alors, elle n'a pas les dents en accordéon, du tout, je vous rassure. En revanche, elle a une veste en jean blanc et une petite écharpe en coton rayé.
Oui, c'est pour la voix, ça.
Justement, Marianne Chazelle, invitée de Boomerang, pour parler quand même de ce que c'est que d'incarner un personnage. Et ce qui frappe quand même, c'est la capacité que vous avez toujours à vous transformer, je trouve, pour un rôle. Cette façon que vous avez de disparaître derrière un personnage. En quoi jouer la comédie, c'est se métamorphoser pour vous, toujours?
C'est mon plaisir, je pense. Je pense que les personnages que je joue sont toujours plus intéressants que moi dans la vie. Et c'est ça qui me plaît. Quand j'ai découvert ce qu'on appelle la composition, hein, c'est-à-dire de se quand même caché un petit peu derrière un masque. Là, j'ai eu l'impression que je m'éclatais et que j'étais beaucoup plus large, vous voyez, que j'avais beaucoup plus d'ampleur et que ce que je jouais était plus intéressant.
Il y a cette voix, quand même. Vous parliez de votre écharpe qui protégeait votre voix. Cette empreinte vocale qui est si identifiable. La voix, ça représente quoi pour un acteur ?
Tout. Tout. Je pense que la voix, en tout cas pour le théâtre, c'est une nécessité. Il y a des acteurs qui ne peuvent pas faire de théâtre parce qu'ils n'ont pas de voix. Ils peuvent avoir une présence magnétique à l'image. Ils peuvent... Mais quand ils sont sur un plateau... Il y a une question de voix et c'est ce qui est le plus important.
C'est injuste.
Ah ben la vie est affreusement injuste.
Injuste, Marianne. Mais c'est bien que vous le disiez pendant cette rentrée. Effectivement, je l'ai appris.
Augustin, vous le savez même.
Comment vous avez appris à la maîtriser, votre voix ?
Est-ce que j'ai appris à la maîtriser ? J'ai pas cherché à la maîtriser. Non, je pense que la voix, il faut la protéger parce que c'est vrai qu'elle est fragile. C'est vrai quand on joue beaucoup, là on va jouer énormément toutes les semaines. Il faut l'aménager, il faut qu'elle dorme, il faut qu'elle boive un petit peu de vin. Vous voyez, de vin, du bon Bordeaux. La voix, elle aime
j'avais
beaucoup
entendu
le bon
du Porto. J'avais entendu
oui,
du Porto,
mais en fait c'est plutôt du vin. Enfin, j'ai quitté le Porto il y a quelques semaines pour passer au Bordeaux.
C'est les trois coups de la rentrée. Bien sûr.
C'est ça.
Et Tilla Shelton que vous mentionniez tout à l'heure.
Alors voilà, par exemple Tilla. La voix de Cilla, c'est dingue.
Oui.
Vous entendez la voix de cette femme, vous la reconnaissez instantanément.
Immortalisée dans Tati Daniel.
C'est ça, avec une découverte très tardive au cinéma. Et c'est elle qui nous a donné nos cours de théâtre à Tout le Splendide.
C'est quoi pour vous une bonne enseignante, un bon professeur d'art dramatique ?
C'est quelqu'un qui est soutenant, mais qui n'est pas flatteur. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de profs que j'ai aperçus qui sont là pour serrer les pompes et dire « ma chérie, tu es géniale, c'est fantastique ». Cilla, c'était pas du tout ça. Elle allait toujours chercher le truc qui allait pas, le petit truc à soulever.
Dure ?
Ouais, dure, absolument. Mais en même temps, soutenante, en ce sens que tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison, tu vas le faire.
Tu as trouvé ta voix.
Voilà, et même son but à elle, c'était de pouvoir faire jouer un tabouret. Elle pensait qu'elle le disait, elle pouvait faire jouer tout le monde. Elle était persuadée que tout le monde était capable de jouer.
Même un tabouret ?
Même un tabouret.
Comment on fait jouer un tabouret ?
Ah bah, il fallait lui demander, malheureusement, elle n'est plus avec nous. Mais...
Je vous demande à vous. Ces années d'apprentissage, elles ne sont pas faites seulement avec Tilla Shelton et vos camarades du Splendide, mais aussi sur les bancs de la fac d'histoire géo à Nanterre, Marianne Chazelle. On est à la toute fin des années 60. Quelle étudiante ce que vous étiez à l'époque ?
Alors, j'avais des Clarks, des jeans en velours Milleray, les cheveux un peu gramouillés.
Ça n'a pas trop changé, somme toute.
Merci. Je fais des efforts, sûrement, pour avoir l'air un petit peu fraîche
moi,
à 9h du matin.
Mais j'aime bien ce look, moi.
Et puis, non, j'étais très timide. Et c'est vrai que pour ça, Tilla et le théâtre et mes copains m'ont beaucoup aidé à sortir de cette coquille dans laquelle j'étais à cette époque-là.
Mais engagée, en même temps.
Ah oui, bah
profondément.
Oui, tout à fait. C'était bon, à part les années post-68. Et il y avait le MLF qui s'était créé à Nanterre et j'y participais ardemment. Et peut-être d'ailleurs que j'y ai croisé des personnes que vous connaissez bien.
Peut-être bien.
Peut-être bien.
Et le MLF, quand vous entendez par exemple aujourd'hui ce qu'on vient d'entendre sur le Texas.
Je pleure, j'entends ça. Je trouve qu'on est dans une régression du monde. Quand je vois les talibans, quand je vois ça, je me dis que les femmes sont vraiment pas sorties d'affaires.
Parce que vous faisiez quoi à l'époque concrètement ?
Ben concrètement, on se réunissait, on parlait beaucoup et on cherchait des actions. Et il fallait faire des choses. Et comme on était à Nanterre, dans un quartier qui n'était pas du tout terminé, c'était encore bourré, il y avait encore des gens qui vivaient dans des bidonvilles. C'était vraiment très impressionnant. Et il y avait des barres d'immeubles dans lesquelles vivaient des gens, des migrants ou des gens très 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 pauvres. Et nous, on allait aider ces femmes qui étaient dans ces immeubles. Et notamment, on avait des situations à gérer terribles de femmes qui avortaient dans leur cuisine et qui avaient des moyens absolument invraisemblables pour avorter, parce qu'à l'époque, c'était pas encore permis. Elles avortaient avec des queues de persil. Je vous assure, j'ai vu ça. Et ça pouvait entraîner évidemment des septicémies, la mort des femmes. On avait le sentiment que c'était pas inutile ce qu'on faisait, et que c'était pas pour parler uniquement.
Ce sont les mots d'une femme très libre que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, ceux de Colette. Colette, dont je sais que vous avez une affection particulière pour elle. Des mots extraits d'une nouvelle qui s'appelle « D'Evry de la Vigne », ça s'appelle « La dame qui chante » et ça tombe bien, on parlait de voix. On vous écoute.
La dame qui chante allait chanter et se dirigea vers le piano et je me rendis tout à coup une... Compte. Non, je recommence.
Ah,
je me suis... J'ai loupé. Parce que j'ai même mis le papier. Voilà. C'est bon, j'y vais. La dame qui allait chanter se dirigea vers le piano et je me sentis tout à coup une âme féroce, une révolte concentrée et immobile de prisonnier. Pendant qu'elle fendait difficilement les jupes assises, sa robe collée aux genoux comme une onde bourbeuse, je lui souhaitais la syncope, la mort ou même la rupture simultanée de ses quatre jartelles. Il lui restait encore quelques mètres à franchir. 30 secondes, l'espace d'un cataclysme. Avec une froideur insolente, je dévisageais la dame qui allait chanter et je retins le ricanement d'une diabolique joie à la trouver plus laide encore que je l'espérais. Et soudain, une note aiguë, un cri vibrant, troua ma cervelle, hérissa la peau de mon échine. La dame chantait. À ce premier cri, jailli du plus profond de sa poitrine, succéda la langueur d'une phrase, nuancée par le mezzo le plus velouté, le plus plein, le plus tangible que j'eusse entendu jamais. Saisi, je relevai mon regard vers la dame qui chantait. Elle avait sûrement grandi depuis un instant. Sa bouche généreuse s'ouvrait et j'en voyais s'envoler les notes brûlantes, les unes pareilles à des bulles d'or, les autres comme de rondes roses pures. Des trilles brillaient comme un ruisseau frémissant, comme une couleuvre fine. De lentes vocalises me caressaient comme une main traînante et fraîche. Ô voix inoubliable. Au bas du buste tendu dans une immobilité passionnée, deux expressives petites mains tordaient leurs doigts nus. Seuls les yeux, presque noirs, planaient au-dessus de nous, au-dessus de tout, aveugles et sereins.
Est-ce que c'est beau d'entendre Colette le matin?
Ça fait du bien. Hein.
Merci.
Merci.
Merci tellement, Marianne Chazelle.
Merci
infiniment d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que La famille et le potager de Bob Martin, mise en scène par Anne Bourgeois avec Régis Laspalès et Jean-Baptiste Chelmerdine, notamment, sera au Théâtre des Variétés dès le 17 septembre. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villa et son Instant M, juste après ça.
Montre-moi ton point sensible. Je te dirai qui tu es.
Sensible de Malik Djoudi, France Inter, 9h40, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'Instant M.
Salut Augustin.
T'as vu comme je dis bien l'heure.
Ouais. À demain.
À demain.